Les voix du livre. Une émission proposée par Claire Garand en partenariat avec le réseau de librairies indépendantes Initiales. Vous êtes bien sur BAC FM et nous sommes en studio en compagnie de Fanny De Citre de la librairie Le Cyprès Jean de la Lune. Bonjour Fanny.
Bonjour Claire.
Les habitués de l'émission auront remarqué l'absence de notre chroniqueur jeunesse et young adulte Arthur Caillot, l'ado accro au livre. Eh bien, parce qu'il passe son bac blanc aujourd'hui, et oui. Et nous lui souhaitons bon courage, on croise les doigts pour toi Arthur. Alors, à défaut de ses conseils de vive voix, je vous invite bien sûr à consulter son compte Facebook et son compte Instagram pour lire ses chroniques, et il y en a beaucoup. Vous aurez du choix. Mais ce n'est pas la seule modification de l'émission, puisqu'aujourd'hui, nous accueillerons trois invités par téléphone. Éloignement oblige. Et tout d'abord, très éloigné, un éditeur québécois. Et oui, nous traversons l'Atlantique avec Paul Kavchak, éditeur aux éditions La Peuplade, qui sont basés au Canada, même s'il est lui-même byzantin, c'est-à-dire qu'il vient de Besançon. Vous saurez tout sur cette maison d'édition au caractère très affirmé, dont je ne saurais trop d'ailleurs vous recommander la lecture des publications. Je pense en particulier à un roman comme Le Lièvre d'Amérique, mais pas seulement. Et Paul Kavchak nous présentera aussi un de ses ouvrages phares. Et en troisième partie, nous aurons le plaisir de recevoir Isabelle Beautian, écrivaine, scénariste et traductrice, puis la dessinatrice de BD Gali, pour leur étonnante production à quatre mains, une bande dessinée intitulée « L'esprit critique » qui est parue chez Delcourt et qui, comme son nom l'indique, nous fait réfléchir, nous révèle les dessous de nos biais cognitifs. Et oui, rien que ça, et je peux vous dire que ça vaut le détour, et qui nous explique comment notre cerveau, eh bien notre cerveau nous trompe. Oui, et tout cela, vous le saurez en dessin et dans la bonne humeur. Alors oui, c'est passionnant et vous allez voir, ça décoiffe les lobes frontaux du cerveau. Mais auparavant, je laisse la parole à Fanny qui va nous parler de « Nous avons les mains rouges » qui fait la une de la revue des librairies initiales, une revue qui est parue le 10 mai dernier, et que vous pouvez retrouver chez tous les libraires membres du réseau. Alors ce roman a en effet reçu le prix mémorable décerné par le réseau. Alors Fanny, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est ce prix mémorable ?
Alors le prix mémorable, c'est un prix qui est décerné par les librairies initiales, donc le réseau des libraires indépendants dont le Cyprès fait partie. C'est un prix qui existe depuis 2008, et qui récompense les textes qui ont été malheureusement oubliés, des auteurs qui ont été oubliés, ou alors des nouvelles traductions de textes. Et là, en l'occurrence, c'est un livre de Jean Mecker, « Nous avons les mains rouges », qui a été initialement publié chez Gallimard en 1947, et qui a été réédité cette année par les éditions Joël Losfeld.
C'est un roman très très fort, hein, qui parle de pureté, de terrorisme, de désillusion, de démocratie, mais aussi d'humanité. Mmh. Alors, que vous a inspiré la lecture de ce roman ?
Alors, moi c'est un roman qui m'a agréablement surprise, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à quelque chose de justement très sombre et un peu dur à la lecture, alors que c'est un texte qui m'a beaucoup plu en fait dans l'écriture. Parce que c'est un texte très vivant. Il y a une belle part qui est laissée au dialogue et on ressent dans ces dialogues toute la gouaille, tout l'argot en fait de l'époque. Donc c'est un livre qui a été écrit en 1947 et qui se passe en 1947. Et en deux mots, l'histoire, c'est Laurent qui est un homme qui sort de prison. Il a été emprisonné parce que, alors lui, il explique par de la légitime défense, mais il a tué un homme. Lors d'une bagarre, donc on n'a pas plus d'informations que ça, mais en tout cas il sort de prison en 1947 et il va croiser dans la rue un homme, par hasard, et c'est un homme assez particulier, un vieil homme qui ne parle que en métaphores, en phrases de sagesse, de philosophie. C'est un peu obscur parfois, mais c'est assez drôle et savoureux, et cet homme va proposer à Laurent va lui proposer un poste dans la Syrie dont il est le patron. Et puis Laurent, qui voulait plutôt se diriger vers Paris, ça se passe dans les Alpes, va accepter pour voir et va débarquer dans une famille où il y a deux jolies jeunes filles Et puis il va se dire, bah finalement, je vais peut-être rester.
Oh, c'est pas mal ici.
C'est pas mal, il s'en sent bien. Il a le gîte, le couvert. Enfin, c'est plutôt agréable comme cadre. En plus, c'est en pleine forêt. Et il va vite se rendre compte qu'en fait, toute cette famille et tous les gens qui gravitent autour sont des anciens maquisards, des anciens résistants. Et que 2 ans après la libération, c'est des gens qui n'ont pas baissé les armes, en fait. Et qui continuent par des actions qu'ils appellent des actions directes, d'épurer, quelque part, la société. Et pour dire les choses clairement, en fait, ils vont tuer les gens qui continuent de profiter de la guerre, qui ont été collabos pendant la guerre, qui se sont enrichis sur...
Ce sont des justiciers, un petit peu.
C'est ça. Et ce qui est très, très intéressant, du coup, c'est que ce Laurent, ce personnage, a pas vraiment d'idéologie. Voilà, il se laisse un peu porter par les événements. Il va prendre part à ce groupe et à leurs actions, mais avec toujours un espèce de recul et un questionnement par rapport au bien fondé de ses actions. Et il y a des discussions très, très intéressantes entre les différents personnages autour justement du fait que est-ce que c'est pas si fasciste d'agir de la sorte que le fascisme qu'ils combattent.
Bonne question.
Très bonne question. Et ce qui est agréable, c'est que en fait Jean Mecker ne prend jamais parti. Il expose en fait tous les points de vue à travers différents personnages. Et ça donne une réflexion qui est au final assez actuelle. Alors on n'en est pas là, hein, mais sur des méthodes politiques, il y a plein de questionnements très très intéressants. Et encore une fois, ce qui est vraiment vraiment très agréable, c'est, je trouve qu'il donne des dialogues absolument délicieux, quoi. C'est vraiment très très agréable à lire. C'est très moderne. Il y a un vrai rythme. Du coup, je pense par exemple à une scène de bal, bal musette, où on y est, et puis ça castagne, et puis ça se bagarre sur des questions d'honneur et de, enfin c'est toute une époque qui je trouve est voilà c'est agréable de s'y replonger.
Puis c'est très humain aussi, la manière dont il présente ses personnages dans toutes leurs facettes, dans leur complexité.
Ouais, exactement, c'est pas blanc ou noir, enfin voilà, c'est plein de nuances.
C'est rouge.
Alors nous avons les mains rouges, évidemment, c'est un titre qui rappelle le fait que ces gens ont les mains rouges de sang.
Donc, un roman à lire, à savourer, à écouter, puisqu'on entend la musique du bal musette.
Exactement.
Et fera certainement écho à l'actualité, sous différentes facettes d'ailleurs, puisque je laisse la surprise au lecteur. Donc, le prix mémorable, Jean Mecquert, nous avons les mains rouges. C'était le conseil de Fanny de Citre de la librairie Le Cyprès, Jean de la Lune. Donc, merci Fanny. Et je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent aller consulter les comptes Facebook et Instagram de l'ado accro au livre, sur lesquels ils trouveront des suggestions de lecture jeunesse. Et en avant-goût de l'interview de Paul Kavchak, je vous propose d'écouter maintenant son choix musical, Va-t'en Sébastien, par Sweetheart Sébastien.
Sébastien.
êtes bien sur Bac FM, c'était Va-t'en Sébastien par Sweetheart Sébastien, le choix musical de notre éditeur invité, aujourd'hui dans les voies du livre, Paul Kavchak, éditeur aux éditions La Peuplade. Bonjour Paul.
Bonjour, bonjour. Ben, merci d'avoir passé cette chanson hein, qui me tient à cœur et particulièrement aujourd'hui puisque les paroles ont été composées par notre personne aux communications à La Peuplade, Stéphanie Tremblay. Et donc, sur une musique d'un musicien, Sweetheart Sébastien de Québec.
Oui, parce que vous nous parlez depuis Montréal, dans les bureaux de la maison d'édition La Peuplade. Vous êtes écrivain également, puisque vous êtes l'auteur de Ténèbres, un roman au caractère affirmé d'ailleurs, paru l'année dernière. Mais ce n'est pas l'écrivain qui nous parle aujourd'hui, c'est l'éditeur. Alors, Paul, vous avez choisi de travailler dans une maison d'édition qui a été fondée en 2006 à Montréal, qui publie aujourd'hui des textes à l'écriture très personnelle, hein, des romans particulièrement engagés, qui font réfléchir. Est-ce que vous pouvez présenter un peu à nos auditeurs votre ligne éditoriale et ce que vous recherchez dans un texte aujourd'hui ?
Oui, eh bien, tout d'abord, je précise que la maison n'est pas à Montréal, elle a été fondée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est une région qui se situe à peu près 500 km de Montréal. Donc c'est une des particularités de la maison, c'est que on va dire que l'essentiel de la production éditoriale québécoise se situe à Montréal. Et on est une exception à part quelques petites maisons ici et là et une autre à Québec. Véritablement, on est la grosse maison à ce qu'on appelle en région, ce qui serait l'équivalent de la province en France. Alors pour ce qui est de notre ligne éditoriale, finalement, on n'a pas tant... Beaucoup de gens ont dit que c'était une ligne éditoriale basée sur le territoire, ce qui peut être vrai. On a souvent des rapports à l'idée de territoire, que ce soit le territoire boréal, le territoire nordique plus généralement. Mais on a aussi beaucoup de... Disons que c'est pas la façon dont on aborde le livre directement. Je pense que La Peuplade, c'est premièrement, c'est une des personnes, on n'est pas beaucoup, on est des gens qui avions des relations, disons, amicales ou proches dans la vie. Et il y a une communauté, je pense, de goût, de pensée, etc., qui va former la... un petit peu ce qu'on a envie d'avoir dans la ligne éditoriale. Et je dirais que ce qui nous intéresse, donc ce sont des romans souvent de jeunes romanciers ou romancières ou de la poésie également, dans laquelle on peut entendre disons des accents, des particularités de la personne, c'est-à-dire une littérature qui serait un petit peu de l'ordre de, on pourrait dire, idiosyncratique, c'est-à-dire que on a envie de non pas d'être, de ressembler à quelque chose, mais d'entendre vraiment des personnes particulières. Et c'est ça que je mettrais de l'avant, plutôt la façon... c'est pas une thématique, mais plutôt une personne qu'on va rencontrer à travers un livre. Et c'est si la personne nous plaît à travers ce livre-là qu'ensuite on va aller de l'avant. Donc c'est des rencontres interpersonnelles, je dirais, avant tout.
C'est des voix un petit peu particulières que vous avez envie de mettre en valeur ?
Oui, c'est ça, c'est ça. Et comme on a... Finalement, il y a le nom le dit bien, hein, un peu plate, on est un peu... une communauté, bon là le virus le permet moins, mais souvent on essaye beaucoup de voir les auteurs, de faire des soupers, des activités, on essaye beaucoup qu'il y a ce qui nous vit, hein, en plus seulement de la dimension professionnelle et littéraire et commerciale.
C'est une dimension humaine dont vous parlez donc.
Exactement. Et donc ce qu'on va savoir, si cette voix qu'on retrouve hein, qu'on retrouve en littérature, si elle peut nous... Elle s'inscrit, est-ce qu'elle va, ou même est-ce qu'elle va nous donner envie d'aller vers elle, de faire une rencontre et d'augmenter, disons, cette peuplade.
Vous avez envie d'être surpris, peut-être ?
Oui, surtout. C'est surtout, voilà, quand on regarde un manuscrit, qu'on le reçoit, des fois ça peut être très bon et on se dit, bon, c'est très bon, mais il me semble que, voilà, je l'ai un petit peu déjà vu ou un petit peu déjà lu. Et parfois, on se dit, ah là, tiens, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas du tout, ou une façon d'écrire, ou une façon, quelque chose qui surprendrait éventuellement aussi le lectorat hein, québécois ou français, etc. Mais qui nous paraît comme étant une petite fraîcheur.
Et vous publiez principalement des auteurs québécois?
Alors, non, je dirais qu'on est quasiment à maintenant... Alors bien sûr qu'au début oui, mais à force, au fil des années, il y a eu la création de... On s'est beaucoup tourné vers des collections de textes étrangers, notamment une collection qui s'appelle Fiction du Nord, dans lequel on va publier des textes de Scandinavie, du Groenland, du nord de l'Amérique. Et donc on a de plus en plus d'auteurs qui nous viennent du monde nordique et pourquoi pas de la France ou pourquoi pas de l'Afrique. On a d'origine d'Afrique du Nord ou on a un auteur qui a grandi au Sénégal. Éventuellement, c'est pas encore fait, mais on commence à de plus en plus s'intéresser à la littérature des pays de l'Est ou des Balkans, etc. Donc on garde la dimension québécoise, on garde la dimension francophone, mais on n'est pas du tout fermé. Justement, pour être surpris, je pense qu'aussi, des fois, il faut sortir de la métropole ou du Québec pour ce qui est du domaine francophone.
Donc, vous élargissez la peuplade. La peuplade s'agrandit.
Toujours, voilà, c'est un peu l'objectif, oui.
Et quelle est votre actualité aujourd'hui? Quels sont les projets, les objectifs et les perspectives de la maison d'édition?
Écoutez, continuez ainsi, essayez de développer des rencontres. C'est par exemple la façon dont on travaille la littérature étrangère. Alors oui, on peut passer par un système d'agents avec des grandes foires du livre, mais aussi il y a eu beaucoup de voyages, de rencontres directes, etc. Donc ça allait d'aller faire une amitié, je sais pas, moi par exemple j'ai des amitiés en Islande qui permet de trouver des textes islandais un petit peu avant qu'ils soient sur le radar, des amitiés en Finlande, etc. Donc c'est de continuer ainsi, c'est la rencontre avant tout, qu'on va espérer.
Oui, alors ce sont des relations humaines qui se tissent. Et alors maintenant, je vais vous poser une question un peu délicate. Parmi les romans que vous avez édités, lequel recommanderiez-vous en particulier à nos auditeurs?
Je trouve qu'il y a un roman, un de mes romans préférés de notre catalogue, qui est sorti il y a 2 semaines. C'est vraiment un roman que j'ai pris énormément de plaisir à éditer, que j'ai lu. C'est un roman que j'ai lu peut-être 6-7 fois.
Ah oui.
Et toujours avec un plaisir égal. Donc ça s'appelle Les collectionneurs d'images, de Johannes Nielsen, on parlait de la collection Fiction du Nord, qui est un auteur des îles Féroé.
En effet.
Dans l'Atlantique du Nord et l'Atlantique Nord, toute petite île. Et alors ce Johannes Nielsen était pendant peut-être une trentaine d'années ouvrier du monde de la pêche, pêcheur ou à travailler à terre. Il a été communiste marxiste engagé, certainement en carté, même chez lui. Alors on peut voir dans un documentaire, chez lui, il a le drapeau communiste qui flotte avant le drapeau féroïen. Et il a, dans les collectionneurs d'images, tout simplement, il nous propose la destinée de 5 jeunes garçons des îles Féroé qui naissent la même année, dans les années 50. Et on va les suivre jusqu'à la date du décès de chacun. Au plus tard dans les années 90. Et en fait, il en restera un qui sera vivant et qui va raconter leur histoire. Mmh. Et ça nous permet de suivre un petit peu l'évolution de ces îles qui passent d'une société encore très rurale, articulée sur la pêche dans la fin de la Seconde Guerre mondiale, à l'arrivée d'une modernité néolibérale, des rapports aussi d'émancipation avec le Danemark et l'arrivée du rock'n'roll, des droits des femmes, des droits des minorités sexuelles, etc.
Dis donc, c'est très riche, hein?
Oui, et on suit ça sur un roman, c'est une saga familiale, en fait, une saga familiale un petit peu sur le XXe siècle des îles Féroé, qui devient un petit peu un laboratoire du XXe siècle mondial, mais aussi avec tout le pittoresque de ces îles. Et c'est vraiment, il a un talent de conteur. Moi, ça me faisait penser à des livres comme ceux de John Irving, vous voyez, où vous suivez une vie de l'enfance au décès, avec des personnages excentriques, des personnages pittoresques.
Ça fait envie, hein.
C'est vraiment un livre, alors voilà, que je recommande énormément, et toujours aussi cette sensibilité, ouvrière de l'auteur, qui lui est un communiste engagé. On est encore dans ce monde qu'on a peut-être oublié avec l'hypermodernité, mais des gens que peut-être les gilets jaunes nous ont rappelé, des gens qui travaillent de leurs mains, des gens qui endurent, des gens qui souffrent, des gens qui sont très solidaires, des gens qui tout un monde fier qui cherche à aller de l'avant et qui a dû s'adapter aux défis de cette modernité-là. Et je pense que c'est un petit peu ce parcours-là sur une génération, mais une génération dans laquelle il s'est passé énormément de choses que Johannes Nielsen essaye de raconter.
Un regard engagé sur une réalité complexe, voilà qui devrait ravir nos auditeurs, parce que je pense que peu d'entre nous connaissent les îles Féroé, donc rien que pour le voyage. Et puis, toute l'histoire humaine, hein, la petite et la grande histoire. Voilà une lecture qui certainement piquera la curiosité de, déjà la mienne, et puis celle de beaucoup d'autres personnes, je l'espère. Eh bien, merci beaucoup, Paul. Donc, je rappelle que vous êtes éditeur aux éditions La Peuplade, dont le catalogue est disponible sur le site lapeuplade.com. Et je vous invite, chers auditeurs, à aller feuilleter en librairie les livres de cette peuplade, qui est aussi la nôtre. Alors on se retrouve pour la suite de l'émission après notre deuxième pause musicale, le choix d'Isabelle Botian, notre prochaine invitée. C'est Tim Minchin avec Rock'n'Roll Nerd.
This is a song about the music industry trying to get famous and having no depth. He doesn't have a problem with drugs, he just doesn't do them. He's fine that his mates have tattoos, but he reckons they'll rue them. He likes going to pubs, but he hates it when the music's too loud. He tends not to go to rock concerts 'cause he can't stand the crowds. But all he's ever wanted to be is a rock star on Rage or MTV. But he knows that it's not fucking likely. He just turned 30. He knows that he will always be a rock and roll nerd. He'll keep writing songs the world will never hear. And though they won't be heard, he'll just keep writing. Oh yeah. But you see, the problem is he always dreamt of being a star. But he learned piano instead of guitar, which in the 90s didn't get you very far. So while the other kids were learning Stairway, he was the piano to their forte. But he was convinced one day he'd rock their fucking asses and be an icon for the disenfranchised masses. And grow his hair long and rebel against the state. But just for now that'd have to wait, 'cause he's running late for his morning classes. And he will always be a rock and roll nerd. He'll keep playing gigs that no one knows about. And though it sounds absurd, he'll just keep playing. Oh yeah. But you see, the problem is there's not much depth in what he's singing. He's a victim of his upper middle class upbringing. So he can't write about the hood or bling bling. So he sits and imagines his girlfriend is dead to try and evoke some angst in his middle class head. But the bitch is always fine at 9:30 when he go to bed. And he's not spent a single night in prison. He has no issues with nutrition. He has no drinking problem and no drug addiction. Unless you count the drugs they put in chicken. And marijuana always tends to make him cough. He doesn't look good with his t-shirt off, but when he tries to act tough, you can tell he's tricking now. While his mates will go out late, popping pills and having fun, he goes home and showers and gets a good 8 hours. He gets his thrills from his morning run. While his mates will go on dates, taking speed and drinking cans of Jim Beam, he stays home and cooks, curls up with a book with a girl he's had since he was 17. 'Cause he's never really been part of the scene. While the other kids like Gunners, he like Queen. He's more into Beatles than the Stones. He's more of Stevie Wonder than Ramon. And he's never owned a panel van. He never shot a Pantera fan. He doesn't know the difference between metal and thrash. He couldn't tell you nothing about Axl and Slash. He likes Ben Folds and the Jackson 5. He knows all the words to Stand Alive. And though he wants to feel grungy and cool, he spent 11 years at a private school. So it don't matter how
how he tries. You cannot hide behind his rock and roll lies. Cause if either got it, are you down? Yeah, you'll either rock it, are you wound? Yeah, you've either got it, are you down? Yeah, you'll either rock it, are you wound? He knows that his music lacks depth, but it just can't be helped. He has nothing interesting to say, so he writes about himself. But he doesn't want to seem self-obsessed, so he writes in third person. In an attempt to seem more rock and roll, but he suspects it's not working. And deep in his heart, he knows he will never be Bono or Bowie. And even if he was quite pretty, with small pants like Kylie, he knows that he will always be rock and roll nerd. He'll keep writing songs the world don't care about, and though it sounds absurd, he'll just keep writing. Oh yeah, yeah, yeah. You can criticize him, but he won't care, cause he wants to rock, and he will never be deterred. But he'll always be a fucked up little try-hard wannabe rock and roll nerd. A rock and roll nerd.
Nous sommes de retour dans les voies du livre sur Bac FM en compagnie d'Isabelle Beautian, scénariste de L'Esprit Critique, cette bande dessinée qui nous fait réfléchir et qui nous parle notamment de nos biais cognitifs. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Vous êtes romancière, scénariste, traductrice, et nous sommes très contents que vous ayez accepté notre invitation. Alors, les lecteurs de romans d'imaginaire, et d'imaginaire tout court d'ailleurs, vous connaissent comme romancière, autrice de la trilogie des Rhéteurs, dont on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure aussi, et comme scénariste de bande dessinée de fiction. Moi, je pense en particulier à Effleuré, votre première BD, ou Versipel, et puis là, vous surprenez vos lecteurs en sortant Esprit Critique, une bande dessinée dans un genre complètement différent. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer un album sur ce sujet quand même beaucoup plus abstrait ?
Alors, tout simplement l'état du monde. En fait, j'ai toujours été très sensible à tout ce qui est... soit mauvaise foi, soit erreur de logique dans le raisonnement, mais de en toute bonne foi. C'est quelque chose. Enfin, j'ai l'impression d'avoir toujours été sensible à ça. Et par-dessus le marché, j'ai fait des études scientifiques. Je suis biologiste à la base, et donc je pense que ça m'a armée encore mieux vis-à-vis de ces choses-là. Et en fait, il y a beaucoup d'ouvrages, il y a beaucoup d'essais. Là-dessus, en bande dessinée, quand j'ai eu l'idée de faire cet album, il y en avait très très peu, et je voulais aussi le faire sur un axe assez pratique. C'est-à-dire que pas juste le scepticisme scientifique et les sciences et tout ça, mais montrer se servir notamment d'éléments scientifiques pour essayer de construire un discours de bonne foi, et tout en montrant que c'est pas non plus en se détachant du monde qu'on pouvait parfaitement avoir des convictions très profondes, tout en étant de bonne foi pour à la fois les construire et les exprimer et les nuancer, évidemment. Et en fait, d'où c'est venu, c'est tout simplement je voyais monter une espèce d'ère de la post-vérité un peu à la Trump, mais c'était même avant qu'il soit élu président. Je voyais, il me semble que c'était Manuel Valls qui avait sorti une fois, je sais même plus dans quel contexte, mais comprendre c'est excuser. Et ça, je crois que c'est vraiment le truc qui m'a fait sortir de mes gonds. Je conçois que c'était un truc totalement démago pour aller ratisser des voix, mais il y a des choses qu'on, pour moi, on n'a pas le droit de dire ça. Comprendre, c'est régler le problème avec les faits, en fait. Et derrière, on peut parfaitement avoir une opinion qui soit très sévère ou très indulgente, mais on la construit sur la réalité. Et je crois que ça faisait longtemps que j'y pensais, ce truc-là, ça a été le déclic. Et du coup, je savais que Boulet était intéressé par ces sujets. Et du coup, je suis allée vers lui en lui disant « Écoute, je voudrais vraiment faire une BD de vulgarisation sur ces choses-là. » Et en fait, au départ, je lui avais proposé de faire soit de le co-scénariser avec lui, soit de faire un collectif. Parce que ce que je voulais, c'était pas forcément le faire moi-même, c'était qu'il y ait de la voix. Et donner de la voix à ses idées. Et je m'étais dit, voilà, je fais, c'est le faire avec quelqu'un en plus qui a un gros public et tout ça. Je m'en suis pas cachée, hein. C'était vraiment, ça m'intéressait. Et là, il m'a dit que, alors, ça l'intéressait. Il avait super pas le temps, mais par contre, il était directeur de collection d'une collection de vulgarisation scientifique en BD et que du coup, il était très intéressé pour le prendre dans cette collection. Et c'est comme ça que ça a vu le jour. Et l'état du monde à ce sujet a empiré.
Donc c'est un acte citoyen presque, cette bande dessinée.
C'est un engagement en tout cas. Enfin, c'est me dire je vois cet aspect du monde, disons, qui part totalement à volo et c'est un domaine dans lequel j'ai certaines compétences. Donc plutôt que de râler sur Twitter, je vais essayer de faire un truc un peu constructif. Et d'où cette idée de le faire aussi avec une certaine bienveillance aussi, pas avoir ce, comme on a parfois dans ce type d'ouvrage, un sachant qui explique comment penser à un ignorant. Là, je voulais avoir un personnage principal qui n'est pas forcément un imbécile ou un superstitieux ou un naïf. Je voulais montrer qu'on est tous sensibles à des biais, qu'ils soient cognitifs ou qu'on peut tous se tromper de bonne foi. Et que l'attitude sage et voilà, de bonne foi justement à avoir, c'est pas c'est de s'informer et de se rendre compte que même en s'informant, on peut toujours tomber dans ses biais et d'être toujours vigilant. Je voulais essayer d'éveiller une certaine vigilance.
Alors, ce sujet est très fouillé, hein, quand on lit la bande dessinée. Il y a énormément de références, il y a énormément de concepts aussi qui sont développés. On imagine bien que vous avez effectué de très nombreuses recherches et on imagine aussi qu'il n'a pas dû être facile de trier, de choisir, de savoir quoi retenir. Comment est-ce que vous avez procédé ?
Dans la douleur. Non, le travail de synthèse était vraiment, vraiment compliqué. Enfin, compliqué, était vraiment fatigant surtout. Après, j'avais déjà fait de la vulgarisation, j'avais fait des piges pour des magazines scientifiques, donc je savais vulgariser. C'est aussi pour ça que j'ai voulu le faire, parce qu'à la base, je tenais pas spécialement à faire de la BD de vulgarisation. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est plus la fiction. Mais je savais le faire, on va dire. Mais oui, le travail de synthèse a été vraiment très très compliqué, parce qu'il fallait à la fois être très, je voulais être le plus exhaustive possible, parce que pour aborder l'aspect pratique, j'étais obligée d'aborder plein de notions avant. Je voulais pas non plus que ce soit ultra didactique, pénible, ultra scientifique. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un aspect historique. Enfin, l'histoire est une science, mais je voulais dire pas juste mathématiques. Donc il y a eu beaucoup beaucoup de recherches à faire et des fois des crève-cœur. Je sais que notamment j'ai à peine effleuré l'histoire du complot. Peut-être que si je devais l'écrire maintenant, j'aurais un poil plus développé toutes les subtilités des problématiques complotistes. Il a fallu faire des choix, il a fallu synthétiser. La difficulté, ça a été de vulgariser en sachant qu'on donne pas toutes les infos, mais en essayant de pas en donner des fausses, du coup. Parce que des fois, quand on taille l'information, quand on vulgarise à l'extrême, c'est très facile de donner des fausses idées aux gens. Donc ça a été vraiment assez difficile, honnêtement.
C'était un exercice d'équilibriste, un petit peu, à vous entendre.
Oui, oui, oui. C'était fatigant.
Et justement, votre expérience d'autrice de fiction, qu'est-ce qu'elle vous a apporté ? Qu'est-ce qu'elle vous a permis de faire ? Et justement, est-ce qu'elle vous a permis de vous maintenir au-dessus de ce fil d'équilibriste dans ce travail un petit peu spécifique qu'est la vulgarisation ?
Alors, ça a été c'était un peu frustrant justement pour l'autrice de fiction en moi, parce que moi, ce que j'aime, c'est développer énormément mes personnages. Et là, j'étais obligée. Les personnages, c'était les véhicules du propos, ce que je ne fais absolument jamais d'habitude. Je veux vraiment des personnages qui soient vrais. Après, je pense que ça m'a aidé à quand même à leur donner des nuances, comme je disais, à pas avoir juste un sachant, une sachante en l'occurrence, et un imbécile, à mettre un peu de subtilité dans ces personnages qui aient quand même quelque chose chose de réel, et essayer d'y mettre un petit peu d'humour aussi, un peu de l'humour quotidien, peut-être humour réaliste que j'aime bien utiliser, même quand il y a même dans des situations très sérieuses. Donc je pense que ça a pu m'aider à ce niveau-là, oui.
Alors, ce n'est pas la première fois que vous travaillez avec une dessinatrice, hein, en tout cas à quatre mains. Et comment s'est passée cette collaboration spécifiquement sur cet album? Est-ce qu'il y a eu des moments un petit peu forts? Comment vous avez travaillé ensemble?
Ça s'est assez bien passé, en fait. En fait, on se connaissait déjà avec Gali parce qu'on avait, on devait travailler ensemble sur un projet BD qui était une commande d'éditeur et qui s'est finalement pas fait. Donc, on avait déjà commencé à travailler ensemble. Il nous a fallu un petit peu de temps pour nous adapter l'une à l'autre parce qu'on n'a pas forcément les mêmes références, pas forcément le même humour au départ et tout. Donc, il y a eu un petit temps, voilà, où ce qui s'est très très bien passé. Hein, c'était absolument pas conflictuel. Où on a essayé de se retrouver, en fait, se trouver l'une l'autre. Et je pense qu'après, au final, ça a été un atout, ça, parce qu'on était, justement, on n'avait pas forcément on avait les mêmes intérêts, mais pas forcément les mêmes sensibilités. Et je pense que du coup, ça a rendu l'album plus complet, en fait.
Ça, vous vous êtes enrichi un petit peu mutuellement de vos regards.
Oui, je pense pour parler que de mon point de vue, je pense qu'elle avait des talents narratifs que je n'ai pas, et que ça a totalement enrichi l'album.
Vous pensez à quel type de talent narratif en particulier? Quelque chose de peut-être plus visuel ou...
Tout simplement, oui, voilà, parce que moi, bon, alors j'avais des gags assez visuels dans le livre, mais j'ai un humour qui est vraiment, un humour plus de manière générale, une imagination qui est beaucoup plus littéraire. Et elle, oui, avoir l'image immédiate pour véhiculer une idée, ça, elle a ça. Moi, je l'ai pas. Enfin, ça m'arrive d'avoir des idées depuis le temps que je travaille dans la BD, ça, on va dire que ça commence à venir. Mais spontanément, c'est pas là que mon imagination est la plus riche. Et elle, pour le coup, quasiment toutes les idées visuelles fortes de l'album, c'est elle. Il y en a quelques-unes qui viennent de moi, mais la plupart du temps, c'est elle. Et ça a immensément enrichi cet album pour ne pas en faire juste quelque chose de didactique avec un peu d'humour, quoi.
Alors justement, qu'est-ce qui a finalement été le plus stimulant dans cette aventure à quatre mains? Qu'est-ce que ça vous aura apporté en particulier?
Alors, sur l'aventure à quatre mains, c'est toujours intéressant, en fait, de mélanger son univers et sa sensibilité avec celle de quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est sur chaque album, et sur chaque album, c'est différent, mais c'est le même genre d'enrichissement. Là, ce qui a été stimulant spécifiquement sur cet album, ça a été plus la destination que le chemin, en fait, très, très honnêtement, parce que c'était quand même, je pense, pour elle comme pour moi, un exercice, encore une fois, c'est pas difficile, mais un exercice assez intense. Et je pense que la satisfaction, c'est surtout d'avoir réussi à faire cet album, d'avoir réussi à être exhaustive, d'avoir réussi à être bienveillante, et de voir que pour l'instant, les critiques sont très, très enthousiastes, hein, et que les gens ont vu ce qu'on voulait faire, voilà. Donc, c'était vraiment la destination, hein, c'est que le son, on dit, hein, c'est pas l'important, c'est pas la destination, c'est le chemin. Non, là, c'était clairement la destination.
Donc, alors, en effet, je vous confirme, le résultat est très, très, très instructif. On l'ouvre et puis on se dit, je vais regarder les premières pages pour voir. Et en fait, quand on le referme, on s'aperçoit qu'on a lu toutes les pages. Donc, ça fonctionne très, très bien.
C'est formidable.
Ça fait chauffer le cerveau, c'est très sain. Alors, est-ce que vous pouvez, alors, parce que vous êtes donc une autrice de fiction, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre actualité et peut-être de vos projets? Parce que je crois que vous avez fait une sortie récemment tout à fait intéressante, le troisième tome d'Hérèteur. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Alors, l'Hérèteur, c'est une saga, on va dire, science-fiction qui comportera 5 tomes au total, mais les 5 tomes sont totalement indépendants, j'insiste là-dessus, parce que les gens pensent tous que ça suit, donc pas du tout, c'est des histoires totalement indépendantes. Donc, le troisième tome vient de sortir, il s'appelle Montes. C'est dans un univers en guerre, et ça parle de tous les paradoxes humains dans les conflits armés, en fait, pour le dire de manière très résumée. C'est de l'aventure, et c'est de l'aventure avec un fond sociopolitique comme le sont tous les ouvrages de cette série. J'ai aussi une bande dessinée de fantasy, le deuxième tome d'une BD qui s'appelle Dragon et Poison avec Rebecca Morse au dessin, qui vient de sortir aux éditions Draco. Donc ça, c'est bon, alors c'est c'est mon ma BD la plus légère, on va dire, vraiment, enfin l'humour, aventure humoristique grand public, mais pareil, un petit fond sociétal parce que je peux pas m'en empêcher. Et sinon, l'esprit critique est réimprimé, donc je suis contente. Il y a encore plus de gens qui vont le voir, et là je suis en train de travailler sur des fictions de nouveau, ça fait du bien. Sur notamment le tome 4 des Rhéteurs, enfin la quatrième histoire des Rhéteurs, et sur une nouvelle série de fantasy en BD un peu plus littéraire, mais dont je peux pas encore trop parler. Mais là, oui, le Montes aux éditions ActuSF, et le tome 2 Dragon et Poison aux éditions Draco. On a même un joli, c'est pas un coffret, on a un joli emballage pour ceux qui achètent le tome 1 et le tome 2, c'est magnifique.
Il y avait une très très riche actualité. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. J'avais connaissance que d'une partie, donc je crois que, chers auditeurs, vous avez de quoi lire si vous avez envie de rester dans ces univers. Alors, merci beaucoup Isabelle Bautian d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous pouvez suivre l'actualité d'Isabelle Bautian sur Twitter et aussi sur Facebook, mais aussi sur son site. Et nous allons maintenant faire une petite pause musicale avant de rejoindre l'autre paire de mains de cette bande dessinée, Gali.
There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Tower, princes kept the view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl.
Et nous sommes de retour dans les Voix du Livre après cette pause musicale sur Bac FM, et cette fois en compagnie de Gali, la dessinatrice de L'Esprit Critique. Bonjour Gali.
Bonjour.
Vous n'avez pas toujours dessiné, puisque vous avez commencé par faire des études de commerce et de finance avant de vous tourner vers la BD, d'abord à Paris, puis à Brest pour devenir autrice. Et chez vous, on trouve le dessin sous toutes ses formes, classiques, contemporaines, du blog, de la BD, des albums, chez divers éditeurs. Vous avez touché un petit peu à tous les domaines de l'édition et vous êtes aujourd'hui libraire et toujours dessinatrice dans l'âme. Votre album Mon Gras et moi avait été récompensé par le prix du public à Angoulême en 2009. Vous avez publié Love Blog, Axolot, et aujourd'hui, eh bien, vous revenez avec une nouvelle aventure totalement différente, Esprit Critique, réalisée avec l'autrice et scénariste Isabelle Bautian. Alors, pourquoi vous a-t-il paru intéressant ou utile de créer un album sur l'esprit critique ?
Alors, j'aime bien faire des choses différentes dans ma vie pour éviter l'ennui, justement. Donc après, voilà, parler des problèmes de surpoids dans mon gras et moi, Axolot, les histoires un peu étranges et bizarres et compagnie. Oui, j'ai l'éditrice de la collection Octopus qui est venue me parler et me proposer un sujet auquel je n'ai strictement rien compris. Elle m'a parlé de zététique, d'esprit critique, de science, machin, enfin bref, et tout ça m'a paru complètement passionnant, justement, et je me suis dit, c'est parfait, ça va être l'occasion de me lancer dans quelque chose que je connais vraiment pas, donc voilà.
Vous aimez les défis ?
J'aime bien, ouais. Enfin, quand ça change un peu, quand on sort de sa zone de confort, ouais, c'est chouette.
Alors justement, qu'est-ce qui, dans la création de cet album, vous a fait sortir de votre zone de confort ? Qu'est-ce qui était prévu ou peut-être pas prévu ? Parce que le sujet, vous ne le connaissiez pas trop, mais plus vous avez creusé, plus vous avez réfléchi à la manière de le mettre en image, plus vous vous êtes sans doute posé des questions. Qu'est-ce qui a été peut-être le plus stimulant, le plus surprenant ?
Alors, ça a été assez compliqué, en fait, de faire cet album, justement, parce que, à la base, alors moi, j'ai un bac scientifique, mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc, après, tout le jargon scientifique, toutes les notions, tous les concepts, etc., je les connais pas du tout, enfin, pas plus que ça. Je m'intéresse à la science, hein, je pense un peu comme tout le monde, parce que, voilà, il y a toujours de nouvelles découvertes et des choses qui changent sans arrêt. Et l'esprit critique, du coup, je me suis plongée là-dedans en mode qu'est-ce que c'est que ce truc et comment est-ce que moi, qui n'y connais rien, je peux réussir à modifier, à rendre le texte d'Isabelle intelligible et compréhensible par tout un chacun, c'est-à-dire intelligible pour moi déjà à la base. et voilà, donc j'ai reçu un scénario très dense. Très complexe, il y a certaines pages effectivement, il fallait que je relise plusieurs fois, que je fasse des recherches sur certains mots parce que voilà, c'était pas du tout familier pour moi et voilà, et après adapter en BD, c'est pas facile. donc voilà, c'était un peu le challenge de ce bouquin là et justement moi qui d'habitude suis plutôt sur des sujets légers ou des de l'humour, des choses comme ça. Là, on avait vraiment quelque chose d'assez rigoureux à mettre en forme, quoi.
Alors justement, quels sont les concepts ou les passages qui vous ont donné le plus de fil à retordre, mais sur lesquels finalement vous avez été ravi et peut-être fier de réussir à faire passer le sens grâce à une image parfaitement adaptée?
Alors, le sujet que j'ai préféré, moi, perso, c'est tout ce qui concerne les biais cognitifs. J'ai adoré découvrir tous les biais cognitifs. Alors en plus, ils sont pas tous listés, parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait des centaines. Enfin, c'est un truc impressionnant. Et le challenge, pour un biais cognitif, d'essayer de le rendre en dessin, c'est pas évident, parce que quand on a, par exemple, je sais pas moi, l'effet Dunning-Kruger ou le biais de confirmation ou le biais de je ne sais pas quoi. Enfin, c'est des mots assez abstraits. Et il y a des petits là il fallait quand même les rendre visibles ces biais puisqu'ils interagissent dans l'histoire, donc on a des espèces de petits des petits bonhommes un peu stylisés qui devaient un peu à la fois représenter le biais et en même temps qu'on s'en rappelle et qu'on voit de quoi on parle, quoi. Donc ça c'était un peu le challenge à relever et qui a pas été évident toujours, quoi. Donc il y a des biais qui ont des fois complètement changé de tête entre l'étape du storyboard et celle de la planche finale, quoi.
Et alors, justement, vous avez travaillé à quatre mains donc sur la création de cet album, mais sans jamais vous voir, vous rencontrer. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière de travailler ?
Alors, oui et non, en fait, parce que moi, je suis déjà plutôt solitaire à la base, donc au final, là, j'avais face à moi un ordinateur qui parlait, donc... Ça me changeait pas beaucoup. En l'occurrence, oui, c'est vrai, on s'est jamais rencontré avec ma scénariste parce qu'elle habite à l'autre bout de la France. Alors, elle m'a envoyé des petits colis de soutien à des moments pour me dire allez, courage. continue, mais c'est vraiment le seul lien qu'on a eu entre voilà les mails, les échanges sur chaque page, les chats divers et variés pour venir voilà bouger une virgule ou changer un œil. Enfin, voilà, j'extrapole, mais mais ouais, l'idée c'est ça. C'est vraiment ça a vraiment été l'album sur les réseaux, enfin fait sur les réseaux finalement, parce que enfin sur les réseaux, façon de parler, mais voilà, c'est un peu tout numérique quelque part. Donc si ça se trouve, ma scénariste n'existe pas. J'ai parlé à une intelligence artificielle depuis le début. C'est entièrement possible. Voilà.
Je vois que vous imaginez beaucoup de possibilités. C'est un autre. Vous essayez de démonter un autre biais cognitif, peut-être. Alors, justement, vous parlez de réseau, du fait que ce soit quand même un album qui soit né d'une manière un petit peu différente du présentiel. Mais est-ce que vos techniques, les techniques que vous avez utilisées pour dessiner, pour colorer également, sont des techniques uniquement justement informatiques ou virtuel, ou bien est-ce que vous avez aussi utilisé le papier, le crayon, le bon vieux, les bonnes vieilles techniques habituelles?
Alors, aucune feuille de papier n'a été maltraitée pendant la fabrication de cet ouvrage. J'ai dessiné entièrement sur tablette, parce que j'ai pris l'habitude un peu ces dernières années. Et c'est vrai qu'il y a un côté très pratique, justement, de pouvoir changer, modeler, rebouger des choses de façon très facile, plus qu'en prenant sa gomme et ou en faisant des découpages. Donc, c'est vrai que là-dessus, j'ai vraiment travaillé uniquement numériquement. Et de toute façon, heureusement, parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé en fait pendant la conception de l'album. On a changé des pages entières, il y a des textes qui ont été déplacés, changés, modifiés. Enfin, bref, donc ça a beaucoup bougé, et honnêtement, si j'avais dû le refaire à chaque fois sur papier, je pense que je serais devenue folle. Donc merci l'informatique pour ce coup-là, quoi.
En effet, ça a l'air d'être un soulagement. Alors justement, vous avez utilisé donc des techniques virtuelles pour créer cet album. Est-ce que justement ça vous a paru adapté au sujet, ou bien vous auriez préféré éventuellement choisir autre chose si vous aviez eu le choix?
Oh bah complètement, pour le coup. La forme de l'album, on y a réfléchi pas mal. À un moment, on se demandait si on n'allait pas sortir quelque chose en noir et blanc ou en bichromie pour faire entre guillemets plus sérieux. Mais au final, j'ai suggéré la couleur parce que je trouve que c'est ce qui parle au plus grand nombre. Et pas mine de rien, couleur informatique, ça a un côté un peu lisse, un peu le dessin d'ailleurs aussi, hein, la mise en forme assez avec un trait plutôt plus ligne claire que aquarelle et compagnie. Donc là, de toute façon, il fallait un dessin efficace qui soit pas trop rébarbatif non plus, parce que sinon on allait perdre le lectorat en cours. Donc voilà, moi j'ai fait ce que je savais faire de toute façon, donc je suis pas plus posé de questions que ça, quoi.
Et combien de temps, justement, vous avez mis à réaliser cet album? Parce qu'à vous entendre, il y a eu beaucoup de recommencements, de déplacements, de modifications. Donc, on imagine que ça a dû vous prendre beaucoup de temps.
Alors, à la base, je crois que l'éditeur voulait que je le fasse en 6-8 mois. Et j'ai mis plus de 2 ans en réalité. Déjà parce que, effectivement, quand on a un mi-temps en librairie, c'est pas facile. Et en plus, oui, voilà, c'était vraiment, alors pas un bras de fer, parce que c'est pas vraiment, enfin c'est pas le bon terme, mais c'est vrai que Isabelle avait un scénario, comme je disais, très dense, et des fois, enfin, j'arrivais à, alors ce que j'avais fait à un moment, par exemple, sur une planche, c'est qu'il y avait tellement de texte que j'avais quasiment plus de place pour dessiner. Donc j'ai mis en place le texte, je fais « Hey, regarde !» Tu vois, là, je peux plus rien faire. Donc il va falloir soit qu'on allège, soit qu'on déplace des choses, etc. Et bah tout ça, en fait, à chaque fois, ça prend du temps. Parce que voilà, l'énergie qu'on a mis à storyboarder une page, quand on se rend compte après, au final, que soit ça va pas, soit c'est pas cohérent, qu'il faut changer encore des choses, évidemment, ça rallonge à chaque fois le temps de création, quoi. Mais voilà, c'était toujours pour faire au mieux, pour sortir quelque chose qui soit pas fait à l'arrache, parce que je pense que si j'avais fait l'album en 8 mois, il aurait clairement été moins percutant, je pense.
Mais vous avez privilégié la qualité sur la rapidité, et le résultat, ça se voit en fait, hein, que vous avez privilégié la qualité, ça se voit très clairement. Alors vous me disiez tout à l'heure, avant l'émission, que vous ne dessiniez pas en musique, ce qui est assez rare chez les dessinateurs et illustrateurs, en tout cas ceux que j'ai eu le plaisir d'interviewer, mais vous écoutez autre chose.
Bonjour, je suis l'alien de la bande dessinée, je n'écoute pas de musique. Non, j'écoute en fait plutôt des podcasts. Je suis, enfin pas quand je fais un travail qui prend intellectuel, parce que quand on est dans l'étape storyboard, quand on est dans l'étape soit d'écrire des textes ou des choses comme ça, c'est impossible pour moi d'avoir quelconque bruit à côté qui vienne parasiter mes ondes cérébrales. Donc en fait, ce que je fais, voilà, c'est plutôt quand on a un travail plus pas rébarbatif, mais on va dire plus simple. Voilà, d'ancrage par exemple, ou de colorisation, tout ça c'est beaucoup moins complexe à mettre en page. Donc là, à ce moment-là, oui, en général, je me mets un petit podcast, ou la radio, ou des choses comme ça, quoi. Mais non, pas de musique, toujours pas. Ça influe mes émotions un peu trop fortes.
Vous êtes perméable à la musique, donc.
C'est... Ah mais c'est terrible. Et puis voilà, si j'ai une scène drôle à mettre en page et qu'il y a une chanson triste qui passe, c'est fini. Elle sera jamais drôle, la page. Donc voilà, je peux pas me permettre ce genre de choses.
En effet, c'est un peu risqué. Alors, est-ce que vous avez de nouveaux projets après celui-ci, qui d'ailleurs marche très bien puisqu'il est déjà en réimpression? Est-ce que vous êtes déjà en train de réfléchir à d'autres idées, d'autres albums?
Alors oui, plein. c'est un peu l'embêtant quand on est à cette espèce de période de flottement entre deux projets, justement, parce que en gros, c'est comme si on voyait plein de chemins devant soi, et voilà, la vie va être différente selon si on choisit celui-là, celui-là ou celui-là. Bon, différente, pas énormément, hein, ça changera pas la courbe du soleil, mais mais bref, là oui, j'ai plusieurs choses sur lesquelles je travaille, et je pense quand même plutôt partir sur un projet solo cette fois. Voilà, avec un scénario que je suis en train de mettre en place, et j'ai d'autres bricoles à côté qui devraient pas tarder à voir le jour aussi, donc voilà.
Voilà qui nous met l'eau à la bouche. Donc nous avons hâte d'en savoir plus. Alors eh bien, merci beaucoup Gali d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle
merci beaucoup, je rappelle
l'adresse de votre site galibox.com pour suivre toute votre actualité, et on peut aussi vous suivre sur Instagram, sur Facebook, et ce sera notre conclusion, ou plutôt notre ouverture, puisque la suite est bien évidemment à découvrir dans L'Esprit Critique, une bande dessinée parue, je le rappelle, aux éditions Delcourt en janvier dernier, qui est en vente dans toutes les bonnes librairies, qui est donc écrite par Isabelle Beautian et dessinée par Gali, avec des couleurs de Reiko Tanaku. Je vous remercie beaucoup, hein, et d'avoir accepté donc de venir dans les Voix du Livre, et j'invite les auditeurs à découvrir dans les pages de L'Esprit Critique les joies de nos biais cognitifs. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce livre en écrivant à claire@memorialiste.fr, et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures livresques.